Chers auditeurs, en cette fin du XVe siècle, où en est la vie chrétienne dans le diocèse de Bayonne? De façon plus précise, le peuple est-il vraiment évangélisé? Sans doute tout le monde est baptisé catholique, encore que les Juifs chassés d'Espagne et du Portugal commencent à s'installer à Bayonne et à la Bastille de Clédance. Mais l'Évangile a-t-il vraiment pénétré et modelé les cœurs et les esprits? On a dit et même écrit que dans l'Antiquité et pendant le Moyen-Âge, les ancêtres des Basques étaient renommés pour leur habileté dans la pratique des augures, c'est-à-dire la prédiction de l'avenir. Il est fort possible que le Basque ait fait reposer sa pratique rituelle chrétienne sur un tréfonds ancestral de croyances qu'il n'avait pas totalement évacué. Il faut constater que longtemps, les Laminak, par exemple, et autres Bachayaoun, ont été considérés comme des êtres réels, se mêlant à la vie des gens avec plus ou moins de bienveillance. Cependant, si des réminiscences païennes subsistent, elles ne vont pas empêcher l'expression d'une foi authentiquement chrétienne, qui a toujours besoin, c'est vrai, d'être purifiée, ni l'élaboration d'une religion populaire approuvée par l'Église, avec l'apparition en particulier d'un certain nombre de lieux de pèlerinage. Si l'on voulait protéger son bétail contre les épizooties, eh bien on allait prier à la chapelle de Sainte-Lalie d'Istulitz, à celle de Saint-Blaise à Ioldi, ou à celle de Saint-Vincent à Helette. Avant que Saint-François-Xavier n'y attire les pèlerins, Jacsu avait deux saints guérisseurs, Saint-Julien pour la coqueluche et Saint-Saturnin pour les maux en général. Les jeunes en recherche de fiancés allaient prier à la chapelle Saint-Joseph de Saint-Jean-de-Luz. À Ustalitz, on s'adressait à Sainte-Barbe pour se protéger de la grêle. C'était là d'ailleurs un fléau redouté et les responsables civils de paroisse consentaient parfois une dépense pour l'entretien d'un ermite qui prierait à cette intention, par exemple sur la colline Sainte-Barbe à Ustalitz, à la Rune ou à Oilandoy, à Baïgorry. Le culte de Saint-Léon à Bayonne mérite une mention spéciale. Cette dévotion, malgré la présence d'une fontaine, n'avait, semble-t-il, aucune attache avec le paganisme. Elle se rattachait à l'histoire ou à la légende de Saint-Léon et remontait donc aux dernières années du IXe siècle. On sait que très tôt, une porte de la ville de Bayonne et une chapelle avaient été placées sous le vocable de l'évêque martyr. Son culte sera rapidement adopté par la liturgie officielle du diocèse, tandis que sa légende va aiguiser la curiosité des chercheurs et inspirer l'imagination des poètes. Les femmes enceintes y ont prié Saint-Léon pour obtenir une heureuse délivrance. Le Moyen-Âge n'a pas été seulement le siècle du clergé et des ordres religieux. Les laïcs ont occupé une place importante dans l'Église, cherchant en particulier à prendre eux-mêmes en main, avec le concours des clercs bien entendu, la responsabilité de leur vie spirituelle. Ce XVe siècle est celui de la naissance et surtout du développement des confréries qui regroupaient des fidèles laïcs soucieux de stimuler leur piété et d'étendre la pratique des vertus. Les autorités religieuses ou civiles ne voyaient pas, il est vrai, toujours de bon œil la création de ces confréries sur lesquelles elles n'avaient pratiquement pas de prise. Il faudra attendre le XVIe siècle pour avoir des renseignements assez complets sur ces confréries dans notre diocèse. Il y avait à Bayonne la confrérie Notre-Dame que dirigeait le chapitre. Il y avait aussi la confrérie de Saint-Léon, la plus ancienne sans doute, qui était aussi la plus active, surtout pour l'entretien et la promotion du culte de Saint-Léon. Plus tard, s'y ajouteront la confrérie de Saint-Jacques et celle du Saint-Sacrement. Celle-ci, par contre, aura la faveur des autorités religieuses et du delà jusqu'à la Révolution. On a quelques indices, mais rares, de l'existence de confréries à l'intérieur du Pays basque, par exemple à Cise et Baïgorry. Il faut également signaler les diverses corporations, nombreuses, du moins à Bayonne. Si leur but principal était la défense d'intérêts professionnels, les préoccupations religieuses n'étaient pas absentes. Chaque corporation marquait un dimanche du mois par une messe, et ses porteurs de cierges avaient leur place dans les processions, comme les confréries. Mais qu'en était-il de la vie chrétienne des fidèles de la base ? Peut-être faut-il parler d'abord du clergé. Il est très vraisemblable qu'il ne manque pas de prêtres dans le diocèse, même si leur recrutement et surtout leur formation laissent à désirer. Il n'y a pas un ordre du clergé, comme il y a un ordre de la noblesse. Au labour, le recteur n'assiste pas au Bilsar, ni en Basse-Navarre à l'Assemblée des cours générales. Sa situation matérielle dépend de la bonne volonté des fidèles dans le paiement des dîmes et des diverses redevances. On ne peut pas parler de la richesse foncière de l'Église au Pays basque. Le culte sacramentaire et les rites funéraires occupent le temps du recteur. Il est l'homme de l'autel. Même s'il joue souvent le rôle de confident et de conseiller, il est finalement très peu présent au grand moment de la vie du fidèle. Pour le mariage, par exemple, il donne la bénédiction nuptiale, mais sa présence n'est pas nécessaire pour la constitution du lien matrimonial. Reste la question posée au début. Peut-on dire que le Basque vit vraiment de l'Évangile ? Pour en juger de l'extérieur, la vie chrétienne des fidèles est faite surtout de pratiques cultuelles, sincère à n'en pas douter, et qui s'intègre dans toute la vie de ces hommes de la terre qui forment la majorité de la population. Le salut de l'âme reste le grand souci, d'autant plus que la vie humaine demeure toujours très précaire. Mais quand il fait à l'autel les offrandes accoutumées, se rappelle-t-il que le Seigneur lui demande d'aller d'abord se réconcilier avec son frère ? La réconciliation était une démarche chrétienne pratiquement ignorée, en particulier dans la noblesse. Durant plus d'un siècle, des troubles endémiques vont affecter et même ensanglanter la Basse-Navarre et la Soule. La rivalité des Agramontés et des Beaumontés va entretenir une guerre civile larvée dans les provinces du Nord. Ces luttes fratricides nous ont valu, c'est vrai, l'une des plus belles chansons souletines, « Berretere Cheren Cantorea », qui évoque l'assassinat de l'agramonte Berreterech de Laro en 1440. Nous arrêterons là l'histoire du diocèse au XVe siècle et nous entrerons la prochaine fois dans celle du XVIe siècle.